bien qu'ils disent quelque chose, hein, pour justifier ma présence. Je suis très inquiet, Michael n'a pas l'air très bavard. Heureusement que Ménéas l'est un peu plus. Oui, sur le Peter Pan, pays imaginaire. Alors moi, je vais pas faire comme tout le monde. Parce que moi, j'écris des livres imaginaires, mais peuplés d'anti-Peter Pan, en fait. Moi, ce sont les personnages sont tous des enfants ou des adolescents qui ne sont plus du tout les mêmes à la fin du livre. Alors, ils ont été pris en main avec un sadisme confirmé, soumis à tout un lot d'épreuves. Et à la fin du livre, donc, ils ne sont plus du tout les mêmes. Et voilà, pour ça, ce personnage de Peter Pan est fascinant, mais en même temps inquiétant. Car ça peut être. C'est un piège aussi. Piège, Peter Pan. Et moi, j'écris des romans qui ne sont pas des romans Peter Panesques.
Non, mais c'est bon. J'ai dit que je m'en passais, je vous le laisse. C'est bien, ça me donne ma deuxième accroche. Merci, Eric. Je vous cite Peter. Je ne veux jamais devenir un homme. Je veux toujours rester un petit garçon et m'amuser. Qu'est-ce que ça veut dire, refuser de grandir ? Parce qu'on a souvent... Alors, je précise encore. On a souvent dit que le pays imaginaire était une allégorie de la mort, que... On connaît en psychiatrie le syndrome de Peter Pan. Ça vous évoque quoi, vous ? Non, ne regarde pas comme ça, ça me fait peur.
Ouais.
Je me dis, je vais me faire bouffer.
Ouais, non, c'est... Je réagissais sur le mot mort, parce que je suis pas sûr. Effectivement, c'est beaucoup de gens qui ont essayé d'analyser un peu l'histoire de Peter Pan. Parlent beaucoup, je sais pas.
Non, pour tout le monde.
Parlent beaucoup de ce syndrome de la mort. Peter Pan, effectivement, pourrait ne pas vouloir grandir parce que il n'a pas envie de mourir. Mais en ça, personne n'a envie de mourir et ça ne fait pas de chacun d'entre nous des Peter Pan. Donc je pense qu'il y a des raisons peut-être un peu plus profondes quand on connaît l'histoire un peu de James Barry, qui est l'auteur qui a inventé le premier Peter Pan. Lui avait sans doute des raisons de vouloir bloquer son jeune héros à un âge parce que, bon... Pour ceux qui ne connaîtraient pas, bon, il perd son jeune frère David, qui a 13 ans à peine. Suite à ce décès, sa propre mère est désespérée, donc il comprend qu'il est en train un peu de perdre sa mère. C'est la mort des autres qui lui fait peur. Mais moi, je crois que c'est davantage l'idée de ne pas devenir... adulte au sens où une fois qu'on est adulte, tous les comportements sont un peu codifiés, on a accepté progressivement d'entrer dans des cases successives comme ça. Je crois que c'est davantage ça que la mort que Peter Pan refuse, quoi. C'est l'idée que finalement on aurait une voie tracée de laquelle on ne pourrait plus s'évader et le seul moyen de s'en évader, ben, le meilleur moyen en tout cas, c'était de se créer un pays imaginaire, quoi. Plus que la mort, quoi, je crois.
Michael, ça t'interpelle ? Ou pas ?
Oui, de manière à prolonger ce qu'a dit Ménéas, je pense que le pays imaginaire, c'est justement pas l'allégorie de la mort, c'est ce que tu disais. Pour moi, c'est l'allégorie de nous-mêmes. C'est un miroir, en fait. Et c'est ce que je dis dans la toute première phrase du roman. Il n'y a pas de miroir au pays imaginaire, justement parce que tous les personnages qui le peuplent sont une partie de nous-mêmes et on y place en fait plus que les bonnes choses qu'on voudrait y voir, on y place aussi nos peurs et nos craintes et nos doutes et c'est ce qui empêche Peter de grandir, c'est que tant qu'il cache tout ça dans ce pays imaginaire, il ne peut pas grandir, il ne peut pas affronter sa vie. Et c'est là où ça rejoint un petit peu ce que disait Eric, quand il dit que ses personnages grandissent du tout au tout, d'un bout à l'autre du roman. Peter aussi grandit, Mais et dans tous les contes, dans toutes les variations de Peter que l'on a au cinéma ou en texte, il grandit légèrement, mais justement parce qu'il vit des aventures, il s'y confronte, et c'est ça qui le fait grandir. Ce que met en valeur Barry dans son texte, c'est qu'il ne peut pas grandir parce qu'il oublie tout. Toutes les aventures qu'il vit, il s'en fout. Oui. En fait, il vit les aventures, il oublie tout de suite pour recommencer à zéro, en fait. Et c'est cet oubli qui fait qu'il ne grandit pas. Bon, en réalité, c'est un garçon comme tout le monde, quoi. Je pense. Non.
Eric, j'enchaîne avec ce que vient de dire Michael. Est-ce que tes personnages y grandissent justement uniquement par la confrontation? Est-ce que c'est ça qui fait grandir, ou est-ce que c'est un mouvement inéluctable?
Ce qui fait grandir, c'est la vie. Donc on grandit plus ou moins vite selon que la vie nous oblige plus ou moins à grandir. Et si le pays imaginaire, on peut le rapprocher de la mort, c'est qu'il n'y a que la mort qui fige, en fait. La mort fige, empêche toute évolution. Et ce qui est intéressant par rapport à ce qu'a dit Michael, par rapport à la mémoire, la mort, c'est un endroit, si on reprend les classiques mythologiques, c'est un endroit où les ombres sont là, sans souvenir de ce qu'elles ont, été. Et donc c'est cet aspect qu'il a développé particulièrement intéressant, c'est Peter Pan ne grandit pas parce qu'il oublie ce qu'il a vécu, et il reste au stade de départ. En fait.
Tout à fait. J'avais marqué la page correspondante, mais évidemment, je ne la retrouve pas. Est-ce que c'est ce qui fait aussi que, quelque part, il est incapable d'amour et que sa relation avec Wendy va en souffrir parce qu'il oublie?
Clairement, dans le texte de Barry, oui.
Oui, j'ai retrouvé ma ligne. Ah. Peter en avait vu bien d'autres tragédies et les avait toutes oubliées. Il se souciait moins que Wendy de la victime. Ce qui l'indignait et le décida à intervenir, c'était ce 2-1, donc la justice. Il garde pas de souvenir de ses confrontations, à part son obsession peut-être qui est crochet. Mais est-ce que le fait... Est-ce que c'est cette volonté de ne pas se souvenir? Est-ce que c'est une volonté déjà? Et est-ce que c'est ça qui va plomber complètement sa relation avec Wendy?
On n'en serait pour rien. Hein. C'est une réponse qui appartient à Barry.
Oui, mais c'est votre avis à vous que je demande, monsieur.
Mon avis.
Je ne suis pas un philippique, mais quand même.
C'est oui. Moi, quand j'ai lu le texte de Barry, j'ai vraiment eu l'impression que Wendy en voulait à Peter parce qu'il ne se souvenait pas de leurs aventures. Et d'une année à l'autre, où il revenait la chercher, elle se souvenait de lui et lui non. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il finit par totalement zapper Wendy, parce qu'elle vieillit et que Moira ressemble beaucoup plus à une personne intéressante pour lui que Moira, donc la fille de Wendy. Ça, c'est ce qu'indique Barry dans son épilogue, que Peter revient pour Moira. Et voilà, donc oui, c'est un frein. On ne sait jamais vraiment s'il fait exprès d'oublier, s'il oublie vraiment, ou s'il dit qu'il oublie parce qu'il s'en fout et que c'est pas important pour lui. Mais du coup, ça le rend très, très cruel et égoïste envers les autres. Et c'est quelque chose qui va plomber toutes ses relations.
Vous avez envie de rebondir dessus ou...
Non, pas spécialement. Non, je crois que Michael a très très bien résumé cette. Bon, ceci dit, il y a quand même quelque chose qui me semble clair chez Barry aussi, c'est que Peter Pan, au début, l'amour, c'est une notion pour lui complètement abstraite. Wendy veut lui donner un baiser, il n'en a jamais reçu. Bon, on pourrait l'expliquer par le fait que, précisément, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de mère. Au pays imaginaire, il n'y en a pas, puisque c'est Wendy qui va prendre ce rôle dès qu'elle y arrive. C'est elle qui va raconter des histoires aux enfants, qui va... Je crois que c'est. Il y en a pas. Je ne veux pas donner d'intention à Barry, mais je pense que Peter Pan, à aucun moment, n'a envie de s'établir dans une relation qui. Voilà, qui le condamnerait. Lui, il a sa propre histoire qu'il a inventée. Il veut qu'elle tourne un peu en boucle, qu'elle recommence. Un éternel recommencement. Dans son esprit, pour moi, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de surprise. Quoi. Ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Au moins, je sais dans quel monde je suis. J'ai pas envie que ça évolue. Quoi. Mais je crois que l'amour lui fait peur, quand même. C'est le pendant de Peter Pan, c'est le Capitaine Crochet. Et le Capitaine Crochet, c'est pareil, il n'a pas d'affection pour qui que ce soit. Un pirate dit un mot de travers et le flingue, bon, il n'y a pas. C'est sans foi ni loi et sans sentiment, quoi. Et on sait que Peter, ben oui, ressemble énormément. C'est presque un double du Capitaine Crochet, d'une certaine manière.
C'est intéressant, c'est que l'amour, enfin des sentiments aussi forts que l'amour, c'est des sentiments qui, brusquement, si on les éprouve, nous rattachent au temps qui passe.
Exact.
Et donc, on ne peut, à partir du moment où le temps commence à passer, on ne peut plus oublier. C'est également, tu parlais, c'est intéressant, là, le Capitaine Crochet, lui, il est poursuivi par le temps, par le réveil.
Il y a le réveil.
Qui lui rappelle que le temps passe, même si on veut oublier qu'il passe.
Ouais.
Et à partir du moment où on refuse, où on veut échapper au temps, donc ne plus grandir, il faut qu'on oublie. Et donc on ne peut pas se permettre d'éprouver de l'amour. Et on ne peut pas non plus faire autre chose que vivre pour vivre. Ouais. On ne peut pas se projeter dans quelque chose. Il ne faut pas oublier que dans la mentalité de la mythologie grecque, les muses sont toutes filles de la mémoire. Si on oublie, on ne peut pas ni créer ni rien instaurer de durable et de vivace.
Oui. Bon rapprochement.
Tout à fait. Les muses. Oui. Bon. D'ailleurs, le pays imaginaire, on en parlait il y a très peu. En fait, tout tourne en rond. Les uns courent après les autres, qui courent après les autres, qui courent après les autres, et c'est une boucle. Mais finalement, quand Peter n'est pas là, il devient immobile. Est-ce que c'est lui qui l'anime quelque part ?
Ça, c'est encore une réponse qu'on donne Barry en disant que quand Peter s'envole pour venir à Londres, le pays imaginaire s'endort. Pardon. C'est une des réponses que je reprends pour justement lier un petit peu le texte de Barry au mien. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le film de Spielberg, Hook. Où quand Peter arrive sur l'île, il débarque sur cette montagne enneigée et il croise des espèces de junkies qui viennent le sentir en fait et qui se réveillent en même temps. Et on a ce retour de la nature quand il arrive sur l'île.
Oui.
Revenons sur Crochet, parce que je trouve que c'est cette opposition entre les deux. Une théorie courante que tu explores d'une certaine façon, Michael, mais ça, vous l'avez évoqué chacun, tous les trois, à votre façon, là, tout de suite. Crochet est la version adulte de Peter. Est-ce que ça vous paraît concevable ?
En tout cas, il y a une filiation,
ouais.
Enfin, selon moi. Encore sur le texte de Barry, on a Peter, quand il tue le Capitaine Crochet, il va passer tout, je ne sais pas combien de temps, mais longtemps en tout cas, à s'enfermer dans la cabine du Capitaine, à jouer avec ses doigts en forme de crochet et à se prendre pour un pirate, pour le Capitaine. Et oui, il y a ce lien très étroit, très totalitaire, entre le capitaine et Peter dans sa gestion des relations qu'il a avec ses proches. Et oui, ces deux personnages sont très semblables. Moi, j'ai imaginé qu'ils étaient quasiment père et fils. Enfin, il y a juste en tout cas, du point de vue du capitaine, il l'appelle fiston, mais voilà, c'est... Je pense qu'il y a cette histoire d'amour, cette romance qu'on retrouve dans le dernier Pan, le dernier film,
oui.
Où ils sont amis dès le départ, normalement. Et on retrouve un peu ça de partout. Hein. Il y a cette co-obsession l'un pour l'autre dans toutes les œuvres de Peter Pan.
Oui, ça m'amène à une réflexion. J'ai replongé encore une vieille marotte mythique et mythologique, mais quand on veut, enfin les choses ne viennent jamais par hasard, on est le fruit de choses qui nous ont précédés. Quand je pense au capitaine Crochet, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces figures mythologiques et mythiques qui ont sacrifié à une partie d'eux-mêmes pour obtenir quelque chose en échange. C'est Tyr qui sacrifie sa main dans la gueule du loup Fenrir pour que le loup soit enchaîné, etc. Crochet, lui, il a sacrifié sa main en échange du rappel du temps qui passe régulièrement. Et il forme, le duo indissociable qu'on trouve entre Pan et le capitaine Crochet. C'était très intéressant ce que tu rappelais avec les fleurs, etc., etc. Ça peut rappeler aussi cette constante dans la mentalité grecque antique. Les choses vont toujours par deux. Il n'y a pas une déesse de l'amour, il y a la déesse, il y a Aphrodite, déesse des amants, et il y a Héra, la déesse des gens mariés. Et il y a cet autre couple qui me rappelle beaucoup Peter Pan et Capitaine Crochet, Apollon et Dionysos, qui se partagent l'année en Grèce, et quand Apollon s'en va, c'est le pays imaginaire du coup va entrer un peu en sommeil sous en sommeil, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, mais c'est un peu chaotique, etc., sous l'influence de Dionysos. Et au retour, voilà. Moi, ça me fait penser à cette histoire de jeu de balance, d'équilibre. Parce qu'il faut qu'ils disent quelque chose, parce qu'ils sont pas bavards.
Oui, Mario, ça te fait... Oui, vous avez le droit de...
Oui,
de parler sans que je vous interroge.
On dit ce qu'on veut.
Voilà, oui. Vous dites ce que vous voulez. Après...
Ouais. Non, pas vraiment rebondir exactement de la même manière. Mon sentiment, c'est que c'est quand même difficile de voir une filiation entre Peter et le capitaine Crochet, dans le sens où l'un serait le père de l'autre. Moi, j'ai toujours eu plus l'impression qu'il s'agissait d'un double, une espèce de projection de double. Cet adulte que Peter se refuse à devenir, ça n'affirmerait pas ce que vient de dire Eric, c'est-à-dire ça serait compris de l'abandon d'une part de soi-même qui va pouvoir passer à un autre état, quoi, qui serait... Mais je crois que toi, tu es allé encore plus loin en disant qu'il lui coupe la deuxième main. C'est pas que c'est pas. Il n'y a que dans ta version à toi qu'on entend ça. Hein. Donc je ne sais pas, parce que là, après, on entre dans une mutilation. S'il faisait ça, il n'a plus de main du tout. Alors est-ce qu'il aura deux crochets Mais moi, je vois. Voilà, c'était pour dire, je le vois davantage plus comme. Un double de lui-même, un double projeté dans un futur qu'il ne peut pas imaginer, auquel il se refuse. C'est pour ça qu'il lui fait sans arrêt la chasse, quoi. Et tout en lui faisant la chasse, il y a l'idée que ça représente quand même un modèle, paternel ou pas, mais parce qu'il y a des versions où, précisément, dès que le capitaine Crochet est mort, Peter Pan n'a qu'une envie, c'est de se faire tailler les mêmes habits, mais à sa taille, et de s'habiller en capitaine Crochet. Et bon, sauf que lui, il n'a pas une main coupée, mais dans Marie, on dit que la nuit, quand il dort, son doigt se met tout seul en forme de crochet, parce que ben voilà, il y a une imitation.
Tu nous as, oui, tu voulais rebondir.
Oui,
bon, oui, fais-toi plaisir. Oui, alors là, vas-y.
On retrouve cet effet miroir entre Peter et Crochet, de toute manière. Après, comme tu disais, il coupe la deuxième main. C'est parce que, pour moi, la main du capitaine Crochet n'est pas aussi symbolique que ça. je m'attache juste au fait que il s'est retrouvé en mauvaise posture avec le crocodile. Le crocodile lui a bouffé sa main. Et dans les faits, en fait, il a juste envoyé un réveil dans la gueule du crocodile. Parce que comme le crocodile avait goûté au sang de crochet, qui est un peu spécial,
oui.
et qu'il le poursuit depuis ce jour-là, le réveil, le tic-tac du temps qui passe, en fait, est juste là pour l'avertir que sa mort arrive. C'est juste ça. Mais pour moi, c'est pas aussi symbolique que ça. Donc, une main ou deux.
On n'est pas à ça près.
J'aime beaucoup. J'étais en train de chercher un passage sur le crocodile parce qu'il est effectivement très intéressant. Il a à la fois le temps qui passe chez toi, il a un peu les souvenirs qui font peur.
Pour moi, le crocodile, c'est les souvenirs.
Il est pour beaucoup de gens simplement une bête.
C'est le roi des bêtes sauvages, un peu.
Oui, c'est une.
C'est la plus importante des bêtes sauvages.
C'est, sur le pays imaginaire.
Dans le pays imaginaire,
oui.
On a cette entité qui est les bêtes sauvages de la forêt et du reste du pays imaginaire. Mais le crocodile s'en détache nettement dans le texte de Barry, donc il est un peu ce que Captain Crochet est aux pirates et ce que Peter Pan est aux enfants perdus. Crocodile, voilà, c'est un peu le prince ou le roi, le chef, je ne sais pas comment dire, des bêtes sauvages. Quoi. Exactement ça. C'est exactement ce que j'ai voulu faire de ce texte. Au tout départ, la première nouvelle que j'ai écrite, qui donc correspond à un des chapitres du roman, a été écrite lors d'un atelier d'écriture qui s'appelait Du cauchemar au récit, où il fallait imaginer la pire peur que l'on puisse imaginer, la personnifier et la combattre. Et la peur que j'ai imaginée pour l'exercice, c'était justement la peur d'affronter son destin. Et je l'ai personnifié sous forme de pirate, et je me suis dit, bah, ça colle avec le Capitaine Crochet, autant utiliser le personnage de Peter Pan pour narrer ce récit. Et c'est exactement ça, hein. Peter affronte sa peur, en tout cas, qui est d'affronter le destin en la présence en la personne du Capitaine Crochet.
Ouais. Je propose qu'on élargisse un petit peu. Peter est un enfant, définitif, on va dire. Ça vous va comme expression ?
On peut partir de là.
Pour l'instant, comme ça. Les enfants jouent. Vous avez tous les trois dans vos textes, me semble-t-il, après vous avez tout à fait le droit de me détromper, voire de me taper dessus, mais pas en public, des façons d'exprimer le jeu avec la vie. Méléas, ton cas, tu nous prends des enfants et sous la forme d'un jeu, tu vas les amener à vivre des choses finalement très sérieuses. Eric, je sors de ton cadre de littérature ado pour te revenir sur le regard des princes, où nous avons des grands ados, voire des jeunes adultes qui expriment leur jeu de la vie d'une façon différente et qui auront tous ça en commun au travers de tes textes. Et puis, Michael, le jeu de Peter, c'est de rester Peter. Est-ce que c'est vraiment ce qui va définir la personne qui ne grandit pas, d'être resté joueur ? Qui ne grandit pas, je m'entends, hein, qui, oui. Qui refuse... comment tu dis, le confortable...
L'immobilisme.
Oui. Je te rappelle à Mazurka, par exemple.
Ah ben vas-y. Hein.
Non. Mais quel rétif, c'est épouvantable. Vas-y.
Oui.
Merci. Merci, Mike.
Pareil.
Fais quelque chose.
T'as le plus d'expérience.
Eh ben, je vais te prendre au piège. C'est pas toujours oui. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans ton Peter Pan, c'est que justement, c'est en même temps un personnage qui, ici, dit non. Je refuse que ma vie se limite à ce que j'ai vécu. Comme idée de ne pas vouloir grandir, c'est, tu vois, c'est peut-être qu'il veut en même temps pas grandir, mais je crois que ce qui est refusé en priorité, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est cette espèce d'enfermement. Tu continues, il dit, je suis mon présent, je suis la force qui fait qu'à chaque instant, je me tiens debout, je suis la puissance de mes idées, de mes projets, de mes aspirations et de mon avenir. Donc, là, on découvre quand même un Peter qui, en même temps, n'est pas aussi figé que ce qu'on l'a décrit jusque-là. Et je crois que c'est une phrase très forte. Je ne peux pas être réduit à mon vécu. Donc, en même temps, il laisse une porte ouverte. À mon sens, en tout cas, toi, tu l'as lu, c'est cool.
C'est sûr.
Je trouve qu'il est vachement adepte du contrôle, ton Peter Pan.
Un control freak, ouais,
je dirais pas à quoi il m'a fait penser, mais je le vois peut-être d'un œil un peu trop psy. Et pour moi, c'est typique, ce que j'en ai ressenti, c'est tout frais, hein, depuis tout à l'heure. Ça m'a fait penser à l'anorexie masculine. Non, mais au effet, ce problème de contrôle, parce que l'anorexie n'est qu'une question de contrôle en fait. C'est ne pas grandir, mais aussi de contrôler, de garder ne pas grandir tout en gardant le contrôle.
Ouais. Je sais pas. c'est vrai que le texte est très psychologique, ouais. Philosophique aussi, parce que là, derrière les quelques phrases que Minéas a lues, il y a surtout l'idée que personne ne peut se résumer à son passé. Ouais. Personne ne peut être jugé juste sur ses actions passées. Ouais. Et c'est uniquement celui qu'on veut devenir qui est important. Et celui qu'on veut devenir, c'est une notion philosophique en fait. La puissance de quelque chose. Une graine, c'est un arbre en puissance, c'est ce qu'on dit. Du coup, mon moi en puissance, c'est ce que je suis au présent. C'est uniquement ce que ces mots veulent dire. Mais je crois que Peter en a conscience. Et c'est ce qui fait qu'il peut s'amuser avec la vie et avec les gens qui viennent perturber un petit peu ses plans égoïstes. C'est qu'il s'amuse de tout ça et parce qu'il sait qui il est, qui il veut être. Et du coup, il a cette distance avec le passé, avec les autres et avec son propre futur aussi, je pense.
Tu es toi, c'est là ton plus grand pouvoir.
C'est exactement ça.
Oui.
Tu t'embêtes, hein ?
Il faut que je dise quelque chose.
Non, mais t'es pas obligé.
Non, mais si, il faut dire quelque chose. Il y a deux idées qui me sont venues. Dans le fait de jouer, dans le fait de retourner au pays imaginaire, il est sûr que quand on était enfant dans la société de Barry, on n'avait peut-être pas envie de devenir les adultes, le modèle que la société proposait, hein, qui ne vendait pas du rêve, tout comme aujourd'hui peut-être notre société ne fait pas que vendre du rêve. Et donne plutôt envie de partir aussi dans l'imaginaire. Ça, c'était une idée. La deuxième idée, c'est je suis aussi tout à fait d'accord et sensible à ce qui a été dit. Je rapporterai ça à l'idée de jouer. Je vais revenir encore au mythe grec. Chacun son truc à ce moment-là. Et au premier des, pour moi le premier des romans, l'Odyssée, quand Ulysse répond au cyclope Polyphème qui lui demande qui il est, quand il dit personne, il ne signifie pas fondamentalement que... D'abord, il n'essaie pas forcément de mentir, il ne signifie pas qu'il est personne en termes de néant, mais simplement, il est personne parce qu'il a encore tout ce qu'il doit vivre à vivre. Il n'est encore personne au regard du devenir qui est un jeu, dans la mesure où rien n'étant déterminé, prédéterminé, tout est en voilà, tout va se décider par plein de choses, et on va devenir celui que l'on est par la confrontation avec les événements, les rencontres que l'on va faire, et dans le cas d'Ulysse, un certain nombre de choses qu'il n'aurait jamais pu imaginer au départ. Donc oui, il n'est personne encore au regard de ce qu'il va vivre, et c'est peut-être aussi le cas de Peter Pan, qui naît, voilà, qui est encore personne dans son pays imaginaire au regard de ce qu'il doit être.
J'aime beaucoup.
Ce qu'il veut être.
Ce qu'il doit être.
Les deux font ça.
Je pense que c'est effectivement un point commun au Peter d'origine et au tien, c'est qu'il se définit par rapport à lui et pas par rapport à ce que les autres, à l'image que les autres ont de lui. Il est lui-même, et avec tout ce qu'il a de potentiel, effectivement, c'est ce qui fait que la chute, dont évidemment je ne vous dirai rien si vous ne l'avez pas lu, que la chute est très forte d'ailleurs. Par contre, tu as composé ton livre en 15 chapitres, moi j'ai envie de dire plutôt 15 tableaux,
oui,
qui vont nous donner 15 instants différents et de rapport avec le pays imaginaire. Alors, on va passer des personnages connus, évidemment, et puis ceux qui ont peut-être moins de relief. Il y a Lily la tigresse, Clochette, mais ceux qui ont moins de relief, comme Croc, le crabe, comme ça, et puis son ombre, bien sûr.
Il en a une quand il la récupère.
Il a tendance à perdre son ombre, ça aussi c'est quand même quelque chose d'assez fort dans le personnage.
C'est pas qu'il la perd, c'est qu'elle se barre, c'est tout.
C'est qu'elle se barre.
À l'origine, elle est coincée dans le tiroir.
Voilà, quand on parlait du contrôle de son ombre, il n'a même pas le contrôle de sa propre ombre.
Alors elle est prise au piège dans le tiroir par Nana, mais on ne sait pas pourquoi elle s'est barrée. Il arrive dans la chambre de Wendy parce qu'il cherche son ombre, justement. Ouais. Elle est arrivée là, mais on ne sait pas.
Mais il n'y a pas d'explication. Dans le texte originel, c'est le début. Il revient en fait chercher son ombre.
Exactement.
Il ne vient pas pour une autre raison. Il vient récupérer sa propre ombre.
Alors, on était dans la dualité depuis le début. Oui,
mais... C'est ce qui me... Alors, je me trompe peut-être, mais je crois que quand on rêve, on ne rêve jamais de son ombre.
On le dit.
Pour essayer de se concentrer la prochaine fois qu'on rêve, mais on ne se représente jamais, même en plein soleil, avec une ombre. Donc ça pourrait être...
C'est parce que dans le rêve, la lumière doit être devant et l'ombre est forcément derrière, on ne peut pas la voir. On dit qu'en rêve aussi, il est impossible de voir ses propres mains. Mais que si on s'entraîne, peut-être... Hein, vous entraînerez à essayer de voir vos propres mains dans vos rêves. Il paraît qu'on ne peut pas non plus.
C'est un bon moyen de se réveiller au milieu de son rêve. Ah,
des crochets qui dépassent peut-être.
Ce qui est intéressant avec le Peter Pan de Michael, c'est qu'il dit « Ouais, ok, mon ombre se barre, d'accord, ça m'enquiquille quand elle se barre, mais je ne me sens pas diminuée sans elle. Ce n'est pas une partie de moi qui s'en va, je ne suis pas amputée. C'est juste que je fais mieux quand elle est là, c'est tout. »
Ouais. En fait... Dans tout le texte, tous les personnages qu'il rencontre sont une métaphore de quelque chose. Donc tout à l'heure, j'ai dit le crocodile, c'est les souvenirs. Croc est juste un crabe qui va lui parler d'âme sœur, et la métaphore de l'âme sœur, en fait, c'est son ombre. Et donc, quand il parle de son ombre, il parle d'elle comme une âme sœur. Et selon moi, une âme sœur, c'est quelqu'un qui n'est pas là forcément pour nous compléter. C'est pas une moitié de nous-mêmes. C'est quelqu'un qui est... Quand c'est là, c'est cool. Mais quand elle est pas là, on reste entier, de toute manière. Mmh. Ouais.
Mmh. Oui. Voilà.
Donc la réponse est, la réponse est là. Il y a toujours des... il y a toujours des clés qui sont disséminées dans le roman pour tout d'interpréter de manière le plus simple possible. Enfin, j'ai essayé de garder cette simplicité sous-jacente à la métaphore.
Effectivement, de toute façon, il la chercherait pas avec, et il lui parlerait pas de toute façon à son ombre, si, ou alors c'est qu'il est vraiment complètement foyé, ce qui n'est pas possible, remarque. Mais enfin, te parle pas à toi-même, à ton, voilà, une partie de toi.
Mais du coup, oui, pour Peter Pan, l'ombre, son ombre est quelqu'un de différent, de, elle a sa propre vie, quoi. C'est pas lui, elle lui appartient pas non plus. Elle est juste là de temps à autre. Et il aime bien quand elle est là, parce que du coup, ils marchent à deux, ça fonctionne, quoi. Ils font tout ensemble, y a pas de souci. Mais quand elle se barre, ben, ça l'enquiquine un peu, parce que c'est mieux quand elle est là, mais elle a sa vie, quoi. C'est une autre personne.
J'ai surtout peur que quelque chose lui arrive.
Oui, aussi. Oui. Oui. Je pense que si son ombre n'était pas aussi... si elle n'avait pas autant tendance à se barrer quand elle le veut, ben elle aurait exactement le même réflexe quand Peter se barre.
Ouais. Moi, j'aimerais que tu me parles davantage de Croc. J'ai beaucoup aimé ce passage avec le crabe, effectivement. Mais dans cette optique même, comme tu parles de l'âme sœur, tu dis... qu'on ait rencontré son âme sœur ou pas, on reste entier. Et moi, c'est quelque chose que je peux admettre. Je trouve que dans l'optique où, oui, on reste entier, mais pas forcément au top. Si tu veux, quelqu'un comme Michel Tournier, par exemple, qui n'est pas dans le registre du fantastique, mais avait une expression pour expliquer que si on n'est pas né jumeau ou jumelle, lui, il appelle ça des sans-pareils. Du coup, on est un sans-pareil. Hein, et on vit notre vie à la recherche quand même de... si c'est pas un complément, si on peut pas l'appeler âme sœur, tu vois, on connaît peu d'individus qui soient pas dans une quête complémentaire. Tu vois. Et ce crabe qui lui parle de l'âme sœur passe son temps, tu dis, à compter le sel de la mer. Hein. Bon, c'est fini sur une touche du mou, on en a combien il y en a. Bon. Mais moi, j'aurais aimé que tu développes l'idée de... Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce crabe, à ce moment? Qu'est-ce qu'il veut dire, lui, à Peter?
Le crabe, c'est une histoire, c'est une anecdote, en fait. J'ai rencontré Croc, pour de vrai.
Ah, voilà.
En fait, je vis en Martinique. Et là-bas, sur les plages, il n'y a que des crabes de partout qui sortent le soir. Pourquoi faire pour bouffer? Mais il y en a qui sont très gros, très territoriaux et très agressifs quand on vient les embêter. Et il y en a d'autres qui sont très peureux. Et dès qu'ils nous voient, en fait, ils retournent dans leur trou. Et un jour, comme à mon habitude, je suis allé trifouiller avec un bâton dans un trou de crabe. Et celui qui était là, en fait, il est sorti, il a chopé le bâton, il est resté là. Et il a joué avec moi pendant quelques minutes, jusqu'à ce que je me barre. C'est pas lui qui est parti. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse un personnage de Peter. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'il pouvait bien lui raconter. Et en fait, je communique par mail avec une amie qui est
avec
ici.
Croc.
Non, avec Croc. Avec une amie qui est ici en France. Et on a eu cette discussion au sujet de l'âme sœur et que je trouvais très intéressante et j'avais envie de la repartager en fait à plus de monde. Et plutôt que poster un statut Facebook, je me suis déjà allé la mettre dans le bouquin. Et donc c'est Croc qui parle de tout ça, tout simplement.
Vous avez tous les trois aussi un rapport avec le voyage. Au moins deux grands globetrotteurs. Toi, ce sont des mouvements plus réguliers, Mike. Mais est-ce que vous êtes à la recherche de votre pays imaginaire? D'accord, ok. C'était trop perso.
J'ai écrit un truc, c'est une question que tu m'as posée hier. Ah. Mon rapport aux îles.
Ah ouais.
Mon rapport à l'île, puisque je suis allé m'installer en Martinique, qui est pas mon île d'origine. C'est la Guadeloupe, normalement. Ma mère est guadeloupéenne, mais j'avais des amis en Martinique, c'est pour ça que je suis allé là-bas. Je suis allé aux Antilles, en fait, pour retrouver une partie de moi-même que je ne connaissais pas, parce que j'ai toujours vécu ici, à Lyon, et Montpellier et Avignon aussi. Et je ne connaissais pas du tout ma culture créole, et je ne connais pas ma famille au-delà de ma mère. Donc du coup, je suis retourné m'installer aux Antilles pour retrouver tout ça. Et c'est un texte que j'ai écrit par rapport aux îles, qui disait que quand on regardait l'horizon, je pense que ça te fait ça aussi, et qu'on ferme les yeux, on a toujours l'image d'une île qui est derrière cet horizon. Et quand on rouvre les yeux, l'île reste comme une image fantomatique. Et on a cet échange de regards qui est constant entre elle et nous. Voilà, on regarde l'île et elle nous regarde aussi. C'est comme un appel, et c'est quelque chose que je pense qu'on retrouve chez beaucoup, beaucoup d'artistes. Et dans toutes les plus grandes mythologies, ce retour à l'île perdue, l'île imaginaire, que ce soit l'Atlantide, Mu, enfin la Lémurie, que ce soit Is ou
Iris. J'allais te rebalancer par là-bas.
Iris, je ne sais pas.
Merci.
Ou Itac.
Ou Itac. Je pensais
c'est
forcément à
Is. C'est la destination finale de qu'Ulysse cherche désespérément à atteindre et qui reste finalement un pays imaginaire, puisque quand il débarque là-bas, et ben la réalité le rattrape et sa femme. Est toujours là, mais enfin bon, elle est en mauvaise posture, etc., etc. Son fils menacé, chassé, etc. Oui, pays imaginaire. Alors moi, je pense pas être à la recherche de pays imaginaire, parce que je sais qu'il n'existe pas. Et c'est dommage.
Chaque fois que tu dis ça, il y a un pays imaginaire qui meurt, tu t'en rends compte?
Oui, moi c'est pas grave.
C'est une clochette qui s'éteint.
C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'un écrivain, ça peut être un éteigneur comme un allumeur. Hein,
c'est vrai.
On peut éteindre des mondes et en rallumer.
Et rallumer des réverbères.
Voilà, tout ce qu'on veut. Non, moi je voyage pour justement, au contraire, dans une démarche inverse. C'est pour aller à la rencontre de la réalité du monde. Puisque c'est tout à fait paradoxal, le monde qu'on nous présente d'où on est un monde imaginaire. Le monde que l'on nous montre à travers la télévision est un monde qui n'existe pas. C'est le tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe, ceci est la représentation d'une pipe. Ceci n'est pas le monde quand vous voyez la télévision, mais ceci est l'image qu'on vous donne du monde. Et à un moment donné, j'ai eu envie assez tôt d'aller voir à quoi ressemblait le monde en vrai. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une vérité du monde en elle-même, mais en tout cas, la manière dont moi je verrais le monde et pas celui qu'on me montrerait.
Tu es quand même parti à la poursuite du Yeti.
Oui, mais c'est parce qu'il existe.
Ah, voilà.
C'est la recherche d'un pays non imaginaire.
Voilà, c'est la recherche d'une créature non imaginaire. C'est une créature que notre monde, c'est toujours la même logique, que notre monde, parce que ça l'arrange bien à reléguer au rang de mythes et de légendes, parce que quand on n'arrive pas à classer les choses, eh ben, ça dérange. Et moi, je suis parti pour justement essayer de montrer, en tout cas de me montrer à moi-même que cette créature a existé bel et bien. Et je trouve ça formidable. Je reviens toujours à... J'adore ce passage. Alors, ça me donne... ça peut frimer, donner l'impression d'être intelligent, de faire des citations comme ça. Dans Pirates des Caraïbes... voilà.
Oui.
Quand Jack Sparrow et le capitaine Barbossa marchent sur la plage sur laquelle le Kraken est échoué, et le Kraken est mort,
Oui,
elle est magnifique, oh, cette scène. Et ce dialogue est très très beau. Quand Barbossa dit le monde, en contemplant la carcasse du Kraken, le monde est plus petit. Et Sparrow répond non, le monde est exactement le même, il est juste moins attrayant. Voilà. Donc, si on supprime des choses vraies pour les reléguer systématiquement au rang d'imaginaire, ça rend aussi le monde moins attrayant. Voilà.
J'en profite là du coup. Barbossa, Sparrow, Crochet et Peter, j'y avais pas pensé, mais là il vient de me sauter aux yeux d'un coup. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui.
Ouais, hein. Mais vraiment, ça m'avait complètement échappé là, d'un coup ça ressort. Et avec le Kraken à la place du crocodile, c'est pas mal. C'est intéressant l'idée de l'île, je trouve. Il y a quelque chose sur l'insularité, évidemment, le fait d'être coupé du reste. Mais c'est pas hasard si le pays imaginaire est une île, effectivement. Les grandes îles mythiques, enfin les grands pays mythiques sont des îles pour la plupart. Vous allez me faire citer Houellebecq, là, ça va être grave. Est-ce que c'est vraiment, je ne sais pas comment exprimer ça, la quintessence de notre rêve, de celui qui nous appartient en propre, c'est de le figer sur, enfin l'installer, pas forcément le figer, mais sur un endroit isolé, un endroit inatteignable.
Oh. Non,
d'accord, ne me faites pas cette tête-là, je pense que j'ai une question.
J'ai un joker.
Non, mais moi je vais être méchant parce que je vais répondre à côté. L'Australie est une île, voilà. Le continent américain est une île.
Oui, voilà. C'est facile, monsieur.
C'est facile. Hein.
Non, mais il y a peut-être.
C'est une île.
Oui, mais quand on parle. C'est... L'Atlantide, c'était quoi? Une île? Pour beaucoup de gens, l'Atlantide, par exemple, c'était une île.
Continent.
Mais oui, les traditions veulent que c'était un continent. Mais c'est peut-être pas innocent qu'on est tenté de le réduire, sans arrêt ces pays imaginaires à une île.
Mais là,
je crois que ça revient au rapport à la mer. Une île, par définition, est entourée de maman, de notre mère à tous, qui est l'eau, qui est la mer, qui est le.
Mais c'est joli ça.
Je crois qu'il y a, ça compte dans la psychologie humaine.
C'est...
Hein? Et toutes les îles sont.
Non.
J'aimerais qu'on laisse parler les auteurs,
c'est comme
s'il vous
plaît.
Le Kraken n'était pas imaginaire jusqu'au moment où le dernier est mort sur une plage et après il est devenu imaginaire. L'Atlantide a peut-être existé, mais maintenant c'est un continent imaginaire.
Comme les dragons. Il n'y a pas de dragon, mais
t'as
un crocodile.
Je ne pense pas que ce soit inatteignable, justement. C'est quelque chose qui va nous guider, mais qui peut justement faire partie de l'accomplissement de notre rêve. Et donc, qui peut être atteignable. Enfin, je veux dire, moi, mon île, j'y suis retourné, par exemple.
Oui.
Voilà, j'ai eu cette opportunité, j'ai sauté, et puis j'y suis arrivé, quoi. Mm-hmm. Après, il y en a peut-être d'autres derrière, encore et encore, mais ça, c'est une autre aventure.
Oui. Oui, je peux dire, bon, justement, elle parlait bon, des voyages, c'est vrai que moi, j'ai pas mal bourlingué. Pas tellement des continents, mais je suis effectivement allé beaucoup d'île en île, dans divers continents. Et je crois que c'était pas forcément d'un imaginaire à recréer qui guidait la quête, mais. Je crois que ça rejoindrait ce que dit Eric. Ce qui compte quand on fait ce voyage, ben c'est le chemin. Ce n'est pas l'endroit où on va arriver. C'est tout ce chemin qui nous anime tant qu'on est en quête de quelque chose, qu'on cherche une nouveauté. C'est ça le plus important, quoi. Après, les îles, c'est vrai que même d'un continent à l'autre, elles ne sont pas si différentes que ça quand tout le monde sait qu'il y a une différence entre l'esprit ilien et un esprit continental, mais ça vient de la petitesse du lieu, ça vient, je sais pas de quoi, mais c'est, les îles sont rarement imaginaires. Moi, je sais que ces dernières années, j'ai souvent dit que quand on considère les îles comme des petits paradis, peut-être, mais dans ce cas-là, les paradis sont tous en enfer, quoi.
Parce qu'aujourd'hui, la planète, malheureusement, elle commence à se ressembler partout, sur les moindres petits îlots. Et ça, on en fait la triste expérience ces dernières années. Hein. Moi, je n'ai pas commencé encore en Guadeloupe ou en Martinique, mais je sais que toutes les îles de l'océan Indien, etc., sont aujourd'hui sont en train de se dépeupler d'à peu près tout. Quoi. C'est fin des pays imaginaires, j'ose pas le dire, on ne va pas faire de la prophétie autoréalisatrice, mais donc c'est pour ça que je doute que l'île soit en elle-même le summum d'un pays imaginaire. Aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer, justement. Tandis que le chemin qui nous conduit à ça, oui, ça peut être, c'est lui qui est encore un synonyme d'émerveillement possible. Et de, parce que précisément, on n'a pas à l'imaginer. Quand on voyage, ce qui est le plus important, c'est la rencontre qu'on va faire, c'est l'aventure qu'on vit. Une aventure, ben, par définition, on peut pas la fixer. Si on sait où on va, il n'y aura pas de surprise à l'arrivée.
C'est pas une aventure.
Il n'y a plus d'aventure, quoi. C'est du tourisme.
Une grosse différence. Je t'ai vu réagir.
Oui, juste par rapport aux îles, l'avantage des îles dans l'imaginaire, c'est que comme ce sont généralement de petits espaces isolés, ça permet, en passant d'île en île, de changer de manière plausible du tout au tout de situation. On revient encore à mon Odyssée. Mais quand il va voir Circé, Éole, etc., à chaque fois, ce sont des îles. Et ça permet de rester cohérent. Si les choses se déroulent dans un pays ou un continent, qu'est-ce qui fait la frontière entre tel ou tel peuple? Qu'est-ce qui fait la frontière entre tel ou tel magie qui s'exerce, etc.? Une île, c'est clair.
C'est d'une façon de bondir de monde en monde. Chaque île est un monde en lui-même.
Ou une planète.
On a la même chose avec le Space Opera. On l'a très bien vu avec les maîtres des brisants, comme on le voyait avec le livre des étoiles. Oui, c'était le.
Ah oui, le vaisseau spatial qui permet de passer d'une planète à l'autre, c'est le vaisseau tout court qui permet d'aller d'île en île.
Bien sûr.
L'avantage d'une île en tant que pays imaginaire aussi, c'est que une île, tu peux a priori contrôler qui vit. Sauf les très 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 grandes îles. Sinon...
Oui, c'est ça, c'est ce que disait.
Oui, sur une île continent comme l'Australie, oui, peut-être.
Je sais pas.
Plus une île est petite, plus c'est un microcosme, et
plus
il est fragile en même temps. Quoi. C'est pour ça qu'au début on disait c'est des petits paradis, mais.
En même temps, tu sais tout de suite s'il y a quelqu'un d'étranger qui est arrivé.
Et oui, c'est ce qui, à mon avis, est arrivé à peu près partout maintenant. Quoi.
Parle-en au dodo.
Voilà. Moi, l'île sur laquelle je vis, il y a 8 ans, on a été classé par l'UNESCO dans les 10 derniers paradis terrestres existants. Je suis obligé de démentir ce classement de l'UNESCO. Enfin, on était content parce que ça nous a permis de prendre des mesures, de dire on va mieux protéger l'environnement, interdiction de pêche pendant 8 mois de l'année, interdiction de cueillir ceci, cela. Mais ça vaut plus rien par rapport à la manière dont le reste, ces pays qui sont plus du tout imaginaires comme le nôtre, le tourisme s'est tellement développé que personne n'est capable de d'enrayer la prédation que représente le touriste, en fait. Je ne veux pas accuser les touristes comme ça, mais je n'ai pas d'agence de voyage. Mais la différence avec ce qu'on appelait jadis les voyageurs, c'est-à-dire les gens du voyage, voyager, ben voilà, c'est une route, un itinéraire, on ne sait pas où on va s'arrêter, on reste plus ou moins longtemps. Dans ce type de voyage organisé, chacun, on le sait, chacun veut revenir avec un souvenir, un objet de l'endroit où il est allé, manière de dire, je sais pas, voilà, j'y étais, j'étais, bon. Sauf qu'aujourd'hui, multiplié par des millions de gens qui bougent en tous sens...
Puis la différence entre aujourd'hui et hier, c'est que hier, c'était le cheminement, le voyage en tant que cheminement qui était important. C'était... Aujourd'hui, c'est le voyage dans le fait de... de passer d'un point A à un point B.
Mais les expressions sont claires chez les gens quand ils disent l'année dernière on s'est fait la Thaïlande, l'année prochaine on se fera le Brésil. Bon, on se fait les pays comme on se ferait une guerre, ce serait pas pareil.
Ou un kebab.
Ou un kebab. Donc c'est vrai qu'il y a plus. Il n'y a plus ce qu'on est en train de perdre avec nos pays non imaginaires, c'est le temps long. C'est l'idée que c'est sur un temps long que notre vie peut s'organiser. Si on laisse le moindre événement nous casser en deux, je crois qu'on n'y arrivera plus, quoi. Mais aujourd'hui, on ne réalise même pas que tout ce qu'on vit, justement, nous casse en permanence tous les jours, quoi.
Et ce qui est évident, c'est que les îles imaginaires se déplacent à la fois dans le temps, dans l'espace et dans leur matérialité. C'est ce que tu disais avec ton île près de Madagascar qui perd de son attrait, c'est ça?
Ah oui.
De la part des populations locales.
Les locaux, c'est toujours pareil. C'est selon la richesse d'un pays, ils ont, je veux dire, plus ou moins de moyens de résistance. Ouais. Et c'est pas les locaux, c'est les gens comme nous qui nous installons dans des pays qui ne sont pas les nôtres à l'origine et qui développons malgré nous ou sciemment une civilisation qui n'était pas celle du lieu où on arrive, quoi.
Toi, c'est une île qui change dans le temps.
Ce qui change le...
Elle est comme un paradis à une certaine époque, puis dans une autre, elle ne l'est plus.
Aujourd'hui, ça se mesure à la disparition.
Ouais.
À la disparition des espèces. Il n'y a plus beaucoup de poissons dans les lagons. Il n'y a plus...
En Martinique, on a une population qui est décroissante parce qu'il n'y a pas assez de boulot, parce qu'il y a... C'est un territoire qui est surpeuplé. Et du coup, l'île était parfaite il y a une vingtaine d'années. On pouvait y vivre, il s'est développé, et puis tout allait bien. Et là, maintenant, on a tous les jeunes qui se barrent, qui viennent soit ici en France, soit au Canada, soit dans en Australie. Enfin, ils vont très très loin. Et c'est plus du tout le pays, en créole, un pays. C'est plus du tout le pays que nos aînés auraient voulu pour leurs enfants. Dans les exemples d'îles qui changent de place, on a celle de Lost, de la série Lost, qui n'est jamais à la même...
Qui est jamais au même endroit.
Ouais, ouais. Exactement. Et dans leur matérialité aussi, c'est juste les sept, comment dire, les ruées vers l'or... Un temps, ça a été l'Ouest américain, maintenant ça ne l'est plus du tout.
Et l'Eldorado, apparemment.
L'Eldorado, on a eu la Chine ces dernières années.
Et forcément, je vais faire un lien du coup avec les déplacements d'îles dans le temps et géographiquement, et boucler avec les Lemuria.
Ah oui.
Là maintenant tu couperas pas. Donc tu viens à Madagascar, tu viens de sortir un nouveau roman qui s'appelle Lemuria, en quelques mots.
Oui, et qui commence précisément sur un îlot, évidemment, c'est celui où je vis depuis une vingtaine d'années maintenant, dès que je peux, quoi. Mais, précisément, je vais, pour rebondir sur l'idée sur laquelle on était, comment j'ai découvert cette île. On n'était que 5 étrangers dessus, aujourd'hui il y en a à peu près 280. J'étais tombé sur un document un voyageur qui était passé jadis et qui avait étudié beaucoup cette île, la flore, la faune, la population, et on se rendait compte que c'était un truc assez extraordinaire. Il y avait 800 habitants sur cette île, mais depuis 1800 et quelques, c'est-à-dire que pendant 100 ans, les morts avaient équilibré les naissances. Et apparemment pas d'une manière voulue, en faisant une politique spéciale de natalité ou autre chose, mais comme quoi il y avait un équilibre assez parfait qui s'était créé. Dans ce sens-là, bien évidemment, elle ressemblait un peu à l'île de Peter Pan, c'est l'île sur laquelle rien ne changeait. Et effectivement, bon, parce que un peu éloigné du continent, ça faisait évidemment très peu d'échanges. Voilà, moi, donc cette année, le nouveau bouquin que je sors parle, il s'appelle Lemuria parce que les Lemuriens sont parmi des espèces assez endémiques de Madagascar, hein,
Il y a à peu près 70 espèces de lémuriens, il n'y en a que 3 ou 4 sur toute la planète réparties, et puis tous les autres n'existent que là. Et ce que j'ai imaginé, c'est qu'effectivement, dans ces pays qui vivent vraiment avec une sous l'influence, on peut même dire, d'esprit, d'ancêtres, les pays comme Madagascar sont encore restés très proches de l'animisme. Il y a eu toutes les colonisations, donc ils ont accepté un peu d'islam, un peu de catholicisme, ils ont pris un peu partout, mais mine de rien, on hésite encore à se faire soigner par un médecin là-bas, et on hésitera tant qu'il y aura des sorciers. Quand on est malade là-bas, on va voir un sorcier, on ne va pas voir un médecin. Si les esprits du lieu ne peuvent rien faire, le médecin pourra en convaincre. Dans l'esprit malgache, c'est comme ça. Et ce qui m'a intéressé, c'est que dans les vieilles traditions, la lémurie... Alors, il y en a qui parlent de la lémurie, qui essaient de la distinguer de Mu, le continent de Mu. Moi, je ne veux pas le distinguer. Pour nous, c'est clairement le monde, l'état de la planète tel qu'il existait avant celui des Atlantes, sachant que les Atlantes nous ont précédés. Et c'est donc un voyage, pas tellement d'île à île que je propose, mais d'île dans leur dimension, ben, précisément dimensionnelle. C'est-à-dire qu'on reste toujours sur la planète Terre, c'est bien la planète Terre, mais dans une dimension, une densité différente qui fait que elle est parfaitement simultanée à notre époque, c'est-à-dire que moi, le livre, ce que je propose, c'est d'amener les enfants en lémurie pour ce voyage qui va leur permettre de comprendre comment on est arrivé à une dégradation pareille sur cette planète, quoi. De quel point on est parti pour arriver à ça, et puis après, je ne donne pas de leçons, après chacun décidera qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça aille de pire en pire, quoi.
Boom.
Donc, boum, peut-être, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, les animaux, eux, nous aident souvent à rectifier nos propres comportements. Dès qu'on les observe, on découvre des choses fantastiques. Il y a beaucoup plus de coopération que de compétition, il y a beaucoup plus de... Bon, etc. Donc voilà un peu ce que moi, j'essaie de traduire dans mes romans.
Ouais. Mais je vais vous remercier tous les trois de vous être prêtés au jeu. C'était un peu...
Alors, merci.
Et puis, je...